Hello tout le monde, comment ça va? Ça doit faire un mois, non, 3 semaines peut-être, 2 semaines, allez, au moins 3 semaines que j'ai pas fait d'épisode de Tu viens de coucher. Bienvenue, le seul podcast en live, pas édité, pas de publicité. Pas d'auditeurs. C'est pas vrai. Il y a quelques auditeurs qui sont là en live. Il y a Gaka qui est avec nous. Diablo Vortex est avec nous. Solide. On a la team solide qui est avec nous ce soir. C'est très bien. Je suis chaud. Je suis content d'être avec vous. C'est le seul podcast gratuit, sans pub, d'un prof qui fait du stand-up. Qui vous parle de sa vraie life sans censure. Et comme je suis en live, il n'y a pas d'édition. Donc si jamais je dis de la merde en live, c'est clippé, c'est balancé sur les réseaux. Voilà, il n'y a pas de filet de sécurité. J'y vais a cappella. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. J'y vais en freestyle, mon pote. Bienvenue, alors. Normalement, ce podcast, c'est mon repère, celui où je parle de ma life sans filet, parce que je veux vous partager mon voyage dans le monde du stand-up et j'agrémente un peu le tout d'un petit peu de jeux vidéo, parce que j'aime bien ça, que j'en fais beaucoup, et puis de ma vie de prof aussi, parce que ma vie de prof et ma vie de stand-upper, il y a un parallèle. Mais je pense que c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans la vie, quand on a une activité artistique, ce qu'on fait dans la vie, Brian le cuistot, et je dose, je compose un repas pour vous avec ce podcast, des saveurs exotiques incroyables. Quand on a une activité artistique, forcément, la vie vient influencer cette activité artistique. Et moi, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. J'allais dire, et moi, je pense plus que les autres, gna gna gna. Ça me saoule les gens qui sont comme ça, qui disent, moi, c'est trop vrai ce qui m'arrive. C'est moi, je. Moi, ma vie, elle est plus c'est plus intéressant. Ah, mais fermez vos gueules. Ma vie, elle n'est pas plus intéressante que la vôtre. Je partage juste mon expérience pour que ça puisse peut-être vous inspirer des trucs. Vous faire prendre des consciences des choses sur votre propre vie. Ma vie, elle n'est pas plus ouf que celle d'un autre. Mais du coup, voilà, je vais vous parler de ce parallèle que je vois toujours entre ma vie de prof et ma vie de stand-upper, puisque je suis face à un public dans les deux cas. Mais aussi la quête que j'ai de m'améliorer dans mon métier de chercheur et d'enseignant, j'y vois un peu la même quête dans mon voyage du stand-up. Je pense que ce qui est important, c'est de rester discipliné. Alors, ce n'est pas un gros mot, discipliné. D'accord? Des fois, discipliné, ça fait peur. Oh, discipliné, ça veut dire travailler. Oh. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est chiant. Mais c'est juste se dire, j'y crois, en tout cas, j'y crois. J'y crois. Parce qu'on a un objectif, peut-être, il faut se donner des objectifs, ça aide à se motiver. Mais surtout, je reste sur la voie et j'essaye de faire de mon mieux. J'essaie d'être sincère avec moi-même sur ce que j'ai envie de faire. Et je veux croire que normalement, la vie te récompense quand tu es un peu sincère avec toi-même. Parce que forcément, tu vas développer des choses autour de toi, tu vas mettre en place des choses autour de toi. Quand tu fais des actions qui sont sincères avec toi-même, et les choses qui vont revenir vont correspondre à tes besoins. C'est bizarre, je suis hyper cryptique. C'est hyper cryptique tout ça. Pourquoi je parle de tout ça? Tout ça pour vous dire que cette semaine, j'ai un énorme épisode pour vous, en plein milieu de la nuit. On est déjà le lendemain. Je vois qu'il est minuit 22. On est déjà le lendemain. D'habitude, j'essaie d'enregistrer un peu avant minuit. Là, on est un peu après. C'est pas grave. On va faire avec. Et d'ailleurs, je dois rectifier les petites choses. Gros programme parce que ceux qui savent, je suis allé au Japon. Donc, je vais vous parler de mon voyage au Japon. J'ai joué à Dead Space. Voilà. Aucun rapport, mais je vais vous en parler quand même. Il y a un tout petit rapport, mais vraiment, il est difficile à trouver. Il y a deux petits rapports. Et j'ai joué au festival de stand-up. Donc, je fais encore du stand-up. Youhou ! J'ai joué au festival Mauve sur Rire autour de Nantes. Je vais aussi vous parler de ça. Et sachez que j'ai un autre festival qui arrive très très bientôt. Le 16 novembre, je serai à Soyaux Fou d'Humour. C'est vers Angoulême. Si vous êtes dans le coin, prenez vos places. C'est une grosse salle, très grosse salle en plus. Donc il reste des places. On était complet à Mauve, plus petite salle. 300 personnes à peu près, un peu moins, 260 je crois. Ouais, beaucoup moins, bon, que 300. 260, mais elle était pleine. Je crois qu'on est presque 600. 600 à Soyaux. Diablo, je vois le message passer. Je t'assure que... je sais que ça n'a pas abouti. Mais comme je disais, c'est un travail sur le long terme. Et j'essaye de faire des pas, de placer des billes, placer des pions pour pouvoir réussir un peu plus à bouger en France et m'exporter un petit peu. Tout n'a pas mordu. J'ai pas réussi à récolter tout ce que j'ai semé. Mais ça serait avec plaisir et j'adorerais vous rencontrer. J'adorerais venir jouer par chez vous. Donc, tu as 3 ans avant qu'on change de localisation. c'est noté. Je devrais réussir. N'oubliez pas que j'ai mon objectif d'HDR. Cet objectif d'HDR, j'allais dire me handicap, disons que me ralentit pas mal dans le stand-up. C'est pour ça que des fois je me plains de ne pas en faire beaucoup. Je suis content quand j'ai une scène. Parce que c'est vrai que je me concentre énormément sur ce boulot d'HDR qui avance. J'annonce une date. J'espère faire ma soutenance d'HDR début janvier-février 2020, début 2025. Janvier-février, par là. J'ai quasi fini, je pense, d'écrire le manuscrit. Pas complètement, je voulais finir cette semaine. Mais avec le Japon, ça a été compliqué. Mais là, j'ai presque fini. Donc, gros programme cette semaine. Par quoi je commence ? Le Japon, peut-être. Tu sais qu'on parle de toi à l'IUT, on fait mécène. Mais parlez-en, faites la promo. Vous savez quoi ? Moi, j'ai été un peu trop timide. Je suis toujours un peu trop timide de ce point de vue-là. J'ai du mal à faire la promo. Je suis pas bon sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez diffuser un petit peu la bonne parole, moi, ça me va. J'essaye de le faire. Hein. Mais c'est vrai que si vous pouviez glisser un petit mot aux copains, lâcher des commentaires, 5 étoiles... Likez, abonnez-vous, voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir aussi. On parle de toi entre deux bouchées de pâtes au déjeuner, putain bah il faut aller vite, hein. Vous n'en parlez pas beaucoup. Juste entre deux bouchées ça va vite, ouais. Alors, j'ai le Japon, qu'est-ce que c'est que ce voyage au Japon ? J'en ai un petit peu parlé mais c'était surtout pour le boulot. J'ai été en fait invité par ma directrice de thèse à prendre la parole pour une réunion entre le CNRS japonais, français et l'équivalent du CNRS au Japon. Grosse réunion importante pour fêter 50 ans de collaboration entre la France et le Japon. Bon, c'était moi c'était une toute petite intervention ce que je faisais. Hein. Moi, j'étais pas un invité de marque. Ma directrice de thèse, c'était une invitée importante. Moi, j'étais juste là pour faire un peu de figuration sur le teko. Ça m'allait très bien. J'ai réussi à caler quelques jours de vacances un peu avant la réunion. Ce qui fait que j'ai pu passer 3-4 jours à Tokyo, tranquille, à me promener, à visiter, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Japon, hyper important pour moi, le Japon, parce que ça a été une... En fait, il y a 14 ans, j'ai fait ma première expérience de chercheur au Japon, ma première expérience à l'étranger. Au Japon, j'ai passé un peu plus de 5 mois de stage là-bas. Et donc, ça a été une expérience folle. Et donc, c'était la première fois que j'y retournais depuis 14 ans. Et je ne vais pas vous mentir, émotionnellement, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a secoué. En fait, déjà, parce que, comme je dis, j'ai reconnecté avec cette première expérience de la recherche, de devoir parler en anglais. Je n'avais jamais fait ça avant, il y a 14 ans. De devoir vivre à l'étranger, d'être isolé, loin, etc. Émotionnellement, ça m'a reconnecté à tellement de bons souvenirs. C'était génial. J'ai adoré. Après, je ne vais pas vous faire un compte-rendu de Tokyo où il y a plein de vidéos de mecs qui en parlent mieux que moi de Tokyo. Je suis allé retourner voir Shinjuku, Shibuya, bien sûr, Harajuku, le parc Ueno, le palais impérial en speed parce que le labo où j'étais, il n'était pas loin. Je me suis promené à Akihabara, évidemment. Je me suis promené. Deux choses sur ce voyage. J'ai adoré. Voilà, j'ai passé 3 jours. En plus, comme moi, je connaissais bien, finalement. J'avais un peu oublié, mais je connaissais bien. Ce qui était sympa, c'est que j'arrivais à un endroit et vite, mes souvenirs, ils revenaient. Et donc, comme je connaissais, j'étais là, oui, bah ok, je m'en souviens. Je n'ai pas besoin de rester très longtemps. Je pouvais vite aller me promener pour aller voir autre chose. Donc, j'ai kiffé. J'ai mangé des ramen. J'ai mangé dans les petits boui-boui japonais. J'ai profité de la pluie japonaise, l'ambiance, le métro. Moi, voilà, plein de trucs que je kiffe. Deux petits soucis, peut-être. Depuis l'époque où j'y étais, le tourisme, il a explosé, mais vraiment explosé. Déjà, tu le vois, en fait, avec toutes les vidéos YouTube, toutes les vidéos Insta, TikTok, les gens, ils connaissent le Japon. Et maintenant, technologiquement, c'est facile d'aller au Japon. Moi, à l'époque, aller au Japon, c'était plus compliqué. Déjà, ton téléphone ne marchait pas au Japon. Ils avaient un autre système de téléphone avant. Maintenant, ça a changé. Ton téléphone, il peut fonctionner là-bas. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc maintenant, si tu veux, pour le dire vite, mais tu arrives, tu as Google Maps, tu as Google Translate, tu n'es pas perdu, tu es aidé, tu es guidé. Donc, c'est beaucoup plus facile et ça se ressent. Il y a énormément de touristes et il y a un endroit où ça m'a un peu presque fait chialer. Je me suis retrouvé à un endroit où que j'adorais. C'est un parc, je vais vous dire, c'est le parc Yoyogi, Harajuku. J'adorais ce parc avec le temple Meiji qui est au centre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui se promenait là-bas. Mais vraiment, il y avait un peu de touristes. Il y a toujours eu des touristes. Je ne vais pas faire genre, il n'y avait pas de touristes. Mais pas énormément. Et là, maintenant, et plein d'endroits à Tokyo, c'est comme ça, c'est Disneyland. C'est vrai, c'est Disneyland. Il y a des touristes partout. C'est normal, hein, je comprends. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu mal de ne pas retrouver l'endroit dans la condition dans laquelle moi je l'ai connu. Ça m'a un petit peu fait de la peine. Pareil, Shibuya, tu as ce célèbre passage piéton où énorme, c'est le plus gros passage piéton, je crois, du monde, où tout le monde traverse en même temps, c'est énorme. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu as que des gens dans le passage piéton en train de se filmer comme ça, là. En train de filmer pendant qu'ils traversent le passage piéton. Et pour moi, ça a l'air... C'est débile. Ça me fait mal à la tête juste de voir ça. T'as des gens dans le Starbucks à l'étage qui filment les gens en train de se filmer pendant qu'ils... Enfin, tu vois, c'est... Tout le monde se filme et en fait, personne n'a de raison d'être là, en fait. C'est con ce que je vais te dire, mais avant que j'y étais, c'était des vrais gens qui étaient là. Les gens, ils traversaient parce qu'ils avaient quelque chose à faire, là. Et là, t'as que des gens qui traversent pour se filmer en train de traverser. Tu vois ce que je veux dire, le côté Disneyland ? C'est faux, en fait. C'est faux. Mais bon, je comprends. Pareil, t'as le petit chien à Chico, là, la petite statue. Les gens, maintenant, ils font la queue pour se prendre en photo devant. Moi, j'ai pas connu ça. Bon. Mais je comprends. Je comprends. J'étais privilégié. Je comprends. Alors, parc chez moi, on est plus Europa Park, mais je comprends la ref. Que Disneyland. Ouais, voilà, Europa Park. Tu vois, c'est un univers qui est faux, qui est artificiel. Il n'y a que des touristes. Mais il n'y a pas que des touristes non plus. Alors, je vais quand même mettre un bémol. Si tu t'éloignes un tout petit peu des endroits hyper touristiques et tu n'as pas besoin d'aller très loin, tu prends deux petites rues sur le Teco, là, tu es vite en dehors des touristes et tu retrouves le truc un peu authentique. Très, très vite. Tu peux le retrouver très vite. Mais avant, le truc authentique, tu l'avais même sur les endroits potentiellement hyper touristiques. Kyoto, j'ose même pas imaginer Kyoto. Kyoto, c'était déjà un gros truc de touristes. Là, maintenant, ça doit être la folie. Ça me fait peur. Axel, tu as lâché un PNG dans le chat. J'arrive pas à l'ouvrir, merde. Je le verrai je le verrai après au pire. Ça doit être ma photo de moi au Japon, je pense que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Ouais. Donc voilà, grosse expérience. Donc ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol du Japon. J'ai adoré un voyage. Hein. Mais deuxième bémol, c'est le... comment le... J'étais parti en quête d'une PSP Go. Hein, je vous avais dit. C'était un petit peu ma mission là-bas. C'était de me ramener un petit souvenir, un peu un petit gadget électronique. Et je pensais surtout une console de jeu. Et j'avais une PSP Go dans la tête. J'ai échoué. J'ai échoué cette mission. En fait, je n'ai pas échoué. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé une. Alors, il faut savoir, Akihabara, bon, ça a changé. Moi, j'ai... franchement, mais c'est ouf. Ça me fait parler comme un vieux boomer. Mais moi, à l'époque, t'avais encore... c'était encore un peu... Moi, j'étais en 2010. C'était encore un peu le Akihabara authentique. Celui dont on parlait dans les légendes, tu vois. Le coin où t'allais trouver plein de bonnes affaires, des vieux jeux rétro, partout, etc. etc. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que les prix, c'est complètement éclaté. Les prix sont hyper chers. Alors, tu trouves, hein, tu trouves du matos. Tu peux en trouver. Mais à des prix pas du tout intéressants. Les prix, ils ont explosé. Et donc, j'ai fini par trouver une boutique, une seule. Et j'ai eu du mal à en trouver. Hein, qui avait des PSP Go. Elle en avait deux, très bon état. Quasiment 250 euros. C'était en yens, c'était 33 000 yens, je crois. Trop cher. Trop cher. C'était pas le but pour moi. Donc, par contre, elles étaient nickel. C'était des PSP Go blanches, comme je les voulais, en bon état, etc. Sauf que moi, le problème de la PSP Go maintenant, si vous voulez, c'est que la PSP Go Vanilla, elle est top. Hein. Mais la batterie, elle ne tient pas la route. Il faut changer la batterie, il faut la modder un peu. Et acheter une console pour la modder 250 balles en bon état, ça me fait un peu chier. Je préfère acheter une version à la rigueur en un peu moins bon état, ou en tout cas sans le packaging, pour 120, 130, 150 balles, la modder, et là ça me fait moins de la peine. Parce que là elle était parfaite, et je ne me voyais pas du coup la niquer, parce que j'allais changer la batterie, rajouter du prix du coup dessus en plus pour la modder. Donc c'était trop cher. Et donc je ne l'ai pas prise cette PSP Go. Je lâche pas l'affaire, j'essaierai d'en trouver une un jour, mais pas celle-ci. Pas celle-ci. Des fois je regrette un peu. Je me dis, allez, t'en as rien à foutre, c'est qu'une fois dans la vie, tu la prends. Mais là, je me suis dit, non, laisse tomber, je vais regretter. Et je pense que j'ai bien fait. Je vois qu'il y a le bot qui a empêché Gaka de nous partager du... 16 messages ont été supprimés. Mais non, le bot, il a banni Gaka pendant 10 secondes. Oh la vache, qu'est-ce que t'as tenté de faire, Gaka? Ouais, donc voilà, ce voyage... Par contre, je ne me suis pas rien ramené, puisque je voulais quand même me ramener un petit gadget du Japon. Et j'ai trouvé cet objet... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais comme vous savez, je me suis mis à la guitare. Et donc, je me suis acheté un petit accordeur vocal. Mais ça marche avec la guitare. À la base, c'est plus fait pour la voix. Mais je n'ai pas trouvé celui que je cherchais. En fait, Korg, ils ont sorti un accordeur de guitare qui se clipse Pikachu. Mais il n'existe plus. Tu ne le trouves plus. Il est en rupture de stock. Et tout ce qui reste, c'est l'accordeur vocal Pikachu. Exclusif au Japon, il y a écrit sur la boîte ne vendre qu'au Japon, donc petit gadget exclusif, je suis bien content. Et en fait l'accordeur vocal, ça marche aussi avec la guitare, tu joues la note près du micro, il reconnaît, donc ça fonctionne aussi. Donc je suis trop content, je me suis ramené ce petit gadget du Japon, j'ai trouvé un petit truc plutôt cool, ça me fait un joli petit souvenir, exclusif, il n'y a personne d'autre qui l'a normalement ce truc là. En même temps, je ne connais pas beaucoup de guitaristes qui se promènent avec leur accordeur Pikachu. Je dois être le seul à faire ça, de toute façon. Donc voilà ce voyage au Japon. Écoutez, j'ai kiffé. Je vous ai parlé des tout petits bémols. Je n'ai pas trouvé la PSP Go de mes rêves. Et il y a pas mal de touristes. C'était juste pour en parler. Mais sinon, ça m'a fait vivre des émotions fortes, quoi. sais, quand tu vis une expérience, quelle qu'elle soit, et puis cette expérience, tu l'enfermes un peu dans une bulle de ta mémoire. Elle est dans le passé, tu sais. Mais t'y tiens. C'est une expérience peut-être qui a été importante pour toi. Elle est rangée dans ta bibliothèque des expériences. Et à un moment, tu vis un truc qui te fait reconnecter avec cette expérience. C'est fort. Ça te fait vivre des émotions assez fortes. J'exagère à peine hein, quand je dis que le remake de FF7 me fait vivre ça un peu. FF7, c'était un jeu qui était tellement important pour moi parce que je suis tombé dessus quand j'étais ado. C'était mon premier RPG. C'était ma première ouverture vers des univers énormes et complexes, des scénarios un peu riches. Voilà. Et donc, pareil, ça a une place particulière. Ça a ce truc dans le fond de ma tête. Et le remake de FF7, c'est ça. Le remake de FF7, c'est en fait un moyen de revivre, de reconnecter avec les émotions que tu as ressenties quand tu étais plus jeune. Et parfois, ça, c'est un peu, ça fonctionne. Et parfois, ça s'est un peu raté. Comme avec le jeu, quelle transition, dont je vais vous parler cette semaine, puisque cette semaine, j'ai joué au remake de Dead Space. Alors le trailer, il est parfait. Le trailer, il est parfait puisque tout l'art de Dead Space, surtout le premier, c'était cette ambiance sonore extraordinaire. Le tout premier Dead Space qui a dû sortir en... Rappelons-nous un petit peu ces années-là. On est en quelle année le premier Dead Space ? On doit être vers 2009, je pense. 2009, 2008, 2009, je pense, le premier Dead Space. Et voilà, cette ambiance particulière. Et donc, j'ai joué à ce remake. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez marrant comme transition, c'est déjà, je parlais du Japon. Tout le jeu se passe sur un vaisseau qui s'appelle l'USG Ishimura. Il a un nom japonais. Et il se trouve que la première fois que j'ai joué au premier Dead Space, c'était au Japon, il y a 14 ans. Voilà, j'avais récupéré un PC quand j'étais là-bas. Je vais télécharger quelques jeux. Je m'étais fait aussi le premier BioShock à l'époque et Dead Space. Et ce jeu, il a des petits défauts de gameplay. Donc, c'est un survival horror. On est dans un vaisseau. Il y a une ambiance très sombre, très oppressante, des bruits. Le bruit incroyable, c'est que quand on se promène dans les couloirs, on entend sans arrêt des bruits distant ou dans les conduites d'aération, on ne sait jamais si quelque chose ne va pas nous tomber dessus. Parfois, on n'entend rien, quelque chose nous saute dessus. Parfois, on entend des bruits et rien ne nous attaque. Donc, on est constamment dans une angoisse permanente. Et ça, c'était génial. Et l'autre particularité vachement cool de Dead Space, c'est qu'il avait une originalité de gameplay. C'est ce qui est rare pour les jeux. C'est qu'ici, les monstres, il fallait en fait les tuer en visant avec notre arme sur leurs membres, les bras, les jambes, pour découper les membres. Et c'est comme ça qu'on les tue. Et c'était assez original, c'était un petit peu différent de ce qu'on pouvait trouver dans d'autres jeux. Un jeu extraordinaire, le premier Dead Space, plein d'idées. Mais ça, c'est l'époque PS3. L'époque PS3, quand même, moi, j'en ai marre de l'époque PS4, PS5. Je dois avouer, il y a très peu de jeux qui me plaisent. Mais l'époque PS3, on a eu quand même l'émergence des Assassin's Creed. Après, on dit ce qu'on veut aujourd'hui d'Assassin's Creed. Mais ça restait quand même des jeux. Tout, c'était un nouveau concept, un nouvel univers qu'on n'avait jamais vu. On a eu les Batman Arkham, on a eu les Infamous, on a eu... et si je pense à la génération 360 qui va avec, on avait les Gears of War, on avait... qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Tellement de jeux et de séries qui sont nés. Les Call of Duty... Alors, les Call of Duty, ils avaient commencé... Alors oui, les Call of Duty modernes. Axel, je suis d'accord avec toi. Les Call of Duty modernes, c'est cette époque-là. Parce qu'il y avait déjà les Call of Duty... façon Seconde Guerre mondiale un peu à l'ancienne qui existait, mais je suis d'accord, les Call of Duty modernes, ça a explosé avec cette époque là ouais. Tellement de séries qui sont nées à l'époque de la PS3 et la 360 et des jeux solo extraordinaires. On a eu vraiment des sagas solo assez extraordinaires qui sont nées à cette époque. Dead Space, voilà, des jeux très originaux, des nouvelles IP, des nouveaux univers. Dead Space en fait partie. Il y a eu un Dead Space 2, j'ai bien aimé. Et il y a eu un Dead Space 3, il s'est fait tellement défoncer par la critique que moi à l'époque je ne l'ai pas fait. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut, il paraît qu'il est moins bien. Il y a eu un Dead Space qui se jouait sur Wii et sur le PlayStation Move aussi, un rail shooter. Que j'ai bien aimé, j'ai fait à l'époque, j'ai bien aimé aussi. Remake, là je vous parle d'un remake, donc je reconnecte aussi quelque part avec des sensations que j'ai eues au Japon, puisque cette peur que j'ai eue en jouant au premier Dead Space, je l'avais eue au Japon. Qu'est-ce qui vaut ce Dead Space, ce remake ? Bah, moi je dois avouer une chose, apparemment il a un peu floppé, il s'est mal vendu, et je dois avouer une chose, je pense que je comprends pourquoi. C'est que quand je joue au jeu, ben c'est bête, hein, c'est horrible. Et en même temps, ça veut dire que c'est un super remake, peut-être, mais je n'ai pas l'impression de jouer à un remake. J'ai l'impression de jouer au même jeu qu'il y a 10 ans, 14 ans même maintenant. Et parce qu'en fait, il colle tellement le design du jeu. Il est plus beau, mais je ne m'en rends pas compte. Le design du jeu, le game design et le design, on va dire la direction artistique, est tellement la même que quelque part, c'était l'image que j'en avais gardée dans ma tête. J'avais cette image-là. Oui, c'est sombre, il y a une ambiance sonore, etc. Et donc, ils ont repris tout ça. Ils ont refait les mêmes niveaux. C'est les mêmes niveaux, avec les mêmes séquences quasiment. Il y a forcément des modifications. Il y a des modifications. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quasiment la même chose. Et donc, bah, oui, il est peu impressionnant, le remake. Et je pense que c'est pour ça, c'est que les gens, quand on le regarde, le jeu, si on regarde le trailer, si on regarde les let's play, on se dit, ben, c'est le jeu auquel j'ai joué il y a 14 ans. Alors que pas du tout. Hein. Si tu regardes des vidéos de comparaison, tu la vois, la diff. Mais je pense que le jeu, il a souffert de ça. Il y a un autre remake de jeu d'horreur qui sort, là, Silent Hill 2. Je serais curieux de voir justement comment il va s'en sortir en termes de vente, celui-ci. Après, celui-ci, c'est différent parce que Silent Hill 2, il a un statut très culte. Dead Space, c'est des jeux qu'on n'a pas vraiment oubliés, on ne les a pas oubliés, on les aime bien, mais ils n'ont pas un statut culte dans le monde du jeu vidéo. Alors que Silent Hill 2, il l'a. Pareil avec Resident Evil 4, qui est un remake qui, quand on le regarde, ressemble énormément au Resident Evil 4, au souvenir qu'on se fait du Resident Evil 4 précédent. Sauf que Capcom, ils nous ont pas mal bluffé avec les remakes de Resident Evil 2 et 3. Et donc, je pense que les gens ont fait confiance à Capcom pour que ça marche, le Resident Evil 4. Et le jeu fonctionne. Hein. Resident Evil 4, il n'y a pas de souci. Le remake, il est super. Mais donc, les ventes ont suivi. Alors que Dead Space, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Quand on regarde les vidéos, ça a l'air d'être le même jeu. Je pense que c'est pour ça que les gens, ils n'ont pas forcément suivi. Moi, je l'ai eu avec le PlayStation Plus. J'y ai joué, je l'ai terminé. Franchement, le jeu, il est bon. C'est un bon jeu, il fait peur. À quelques endroits, le gameplay, il n'est pas super adapté, comme dans le jeu original. Il y a quelques moments où on vous demande d'être un peu plus agressif avec les ennemis. Et en fait, le personnage, il n'est pas vraiment très mobile. Donc, c'est un peu mollasson, quoi. C'est pas fait pour ça, quoi. Mais sinon, à part ça, le jeu est très bon, je vous le conseille. La semaine prochaine, je vous parlerai de Skull. J'y ai joué, J'ai joué un petit peu aussi et j'aime beaucoup. Et on en reparlera d'ailleurs, Axel, si tu es encore dans le coin. J'ai vu des petites refs à Dead Cell dans Skull qui m'a vachement plu. J'ai regardé les trophées, j'ai pas bien compris ce que tu voulais que je t'aima dans les trophées, mais on en reparlera la semaine prochaine. Alors, est-ce que je dois changer cette liste ? Oui, je dois changer un truc dans la liste des jeux auxquels je suis très hypé. Je vais juste changer, alors attendez. Je vais changer juste un truc. C'est Zelda Echo of Wisdom. Je suis désolé, mais je pense que je vais l'enlever de la liste. Zelda Echo of Wisdom. Je l'enlève de la liste parce que j'ai vu les tests. Et en fait, ça a l'air finalement un peu répétitif, un peu banal. Je finirais peut-être par le faire, mais je suis pas hyper excité. Je suis moins excité finalement pour le faire. Alors que je suis toujours très excité par la liste de jeux que vous voyez là. Astro Bot, il y a de grandes chances que ce soit mon prochain jeu. Black Myth Wukong, il est peut-être en train de tomber de ma liste. Il y a tellement de jeux dans ma liste, vous avez vu. Je pense pas que je vais le garder. Astro Bot, en tout cas, c'est sûr, c'est le prochain jeu. Sûr et certain. Il me faut juste un peu d'argent pour l'acheter. Mais dès que j'ai les sous-sous, je m'y mets. Silent Hill 2, ce banger, tu nous dis, Gaka. Ouais, Silent Hill 2, jeu très culte. Donc, il y a moyen que le côté cultissime du jeu fasse vendre un petit peu le remake qui vient de sortir. J'ai un peu envie de le faire aussi, ce remake. Mais moi, je suis moins fan du Silent Hill 2. J'ai tellement préféré le 1. Alors, les gens, ils vont me dire que je suis un ouf parce que l'histoire du 2, tout est beaucoup mieux dans le 2. Tout le monde va dire ça. Mais moi, en fait, j'avais hyper connecté, hyper apprécié l'expérience du 1, en fait, que quand le 2 il est sorti, j'espérais retrouver un petit peu la même chose, et j'ai pas vraiment retrouvé ça. Il y avait un truc un peu différent, quoi. En fait, il était tellement différent que ça m'a un peu déstabilisé. J'ai kiffé, hein, j'ai trouvé que c'était cool, et avec le recul, je comprends pourquoi le jeu il est culte, et pourquoi il est bon, et il n'y a pas de souci, je comprends le message, je comprends le truc, mais il m'a un peu déçu, il m'a déstabilisé. Moi, j'espérais retrouver un truc un peu comme le 1, ou dans la continuité du 1, et en fait, il était différent, et ce n'était pas ce que je voulais à l'époque, et ouais, voilà. Mais j'aime bien, hein. Quand je l'ai fait, j'ai adoré, il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé le 2, j'ai hâte de le voir avec de nouveaux graphismes. Ouais, non, mais c'est cool. Et tu vois, refaire ce Dead Space me fait penser que je ne sais pas à quel point c'était utile vraiment de faire ce remake. Puisque vraiment le jeu, le souvenir que j'avais du jeu original était comme ça. Et j'ai l'impression aujourd'hui que si tu joues au jeu original avec les bons mods, les bons petits effets de graphisme qui boostent un petit peu la résolution, enfin, tu as les petits mods pour le rendre un peu plus beau. T'as un jeu qui tient la route. T'as un jeu qui tient la route. En fait, le problème que j'ai aussi avec la génération parfois PS4, PS5, c'est que oui, en fait, en réalité, c'est méga plus beau. Hein. Faut pas non plus être dans le déni, tu sais. Mais c'est que le saut technologique, il est pas si fou que ça sur beaucoup de jeux. Alors, en fait, le problème, c'est que le saut technologique, il se voit dans des détails, des effets de lumière, des effets de particules, des effets de rendu, et il ne se voit pas dans les directions artistiques. Et c'est ça qui fait le problème de ces remakes. C'est que quand on est passé de la PS2 à la PS3, la puissance de ces nouvelles consoles, le gap technologique, permettait de créer des nouvelles directions artistiques. Le Batman Arkham dont je vous parlais, les Assassin's Creed, les Dead Space. En fait, on pouvait visuellement représenter des idées de design qu'on ne pouvait pas avant. On peut le faire. Après, avec la qualité que ça avait, mais le design était là. Et du coup, maintenant, le design est toujours là. C'est le même design. C'est juste qu'il est plus beau, mais c'est le même design. Il n'y a pas eu un gap technologique qui fait que maintenant, on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Une idée qui irait dans ce sens-là, c'est le Ratchet & Clank Rift Apart. C'est un peu bancal ce que je vais dire, mais où la technologie permet d'avoir une direction artistique avec le multivers, là, des représentations qu'on ne pouvait pas avoir avant. En théorie, mais en réalité, on pouvait, et puis c'est pas si innovant que ça, le truc de Ratchet & Clank. C'est super, hein, attention, mais c'est pas si fou que ça. Et donc, vraiment, je me demande à quoi ça sert. Alors après, peut-être pour peaufiner pour retravailler le gameplay, pourquoi pas, mais quand le gameplay en plus c'est le même, parce que là, le Dead Space dont je vous parle, le gameplay c'est le même. Resident Evil 4, le remake, le gameplay profite de toutes les avancées qu'il y a eu autour des Resident Evil. Donc, le jeu est mieux. C'est plus agréable de se déplacer, c'est plus agréable de contrôler le personnage parce qu'on a corrigé les défauts. Là, le Dead Space, c'est le même gameplay. Enfin, en tout cas, je vois pas trop. Il y a peut-être des petits détails de gameplay qui ont été corrigés, mais dans les grandes lignes, c'est quasiment la même chose. Il y a un truc, si, quand on est en zéro gravité, ils ont changé un petit peu le gameplay de la zéro gravité. Mais bon, c'est pas le gameplay principal, hein. Donc c'est pas forcément très, très intéressant. Voilà pour mon petit avis sur ce Dead Space. Bon jeu. Si vous n'avez pas fait l'original, faites le remake. Ça vous permettra de rajouter cette connaissance à votre culture de gamer. Parce que c'est quand même un jeu qui a marqué à un moment le Survival Horror, qui a apporté quelque chose. Dead Space, il a quand même apporté quelque chose au Survival Horror. Ça vaut le coup de l'avoir fait. Et si vous ne l'avez pas fait, faites le remake. Si vous êtes très fan de Dead Space, faites le remake aussi. Moi, j'ai vraiment kiffé me replonger dans cet univers. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un Dead Space. Et c'était plutôt cool. On rebascule un petit peu en mode stand-up. On rebascule complètement en mode stand-up puisque je n'en ai pas encore beaucoup parlé. Pour vous raconter très rapidement peut-être mon expérience avec le festival Mauve de Rire. Mauve de Rire, petit jeu de mots. Hein, mort de rire, Mauve de Rire. Donc c'est à Mauve-sur-Loire, dans la région nantaise. Et je suis passé premier, jamais évident de passer premier, j'avais 10 minutes, on avait tous 10 minutes. Je suis passé premier, je dois avouer, les 20 premières secondes, 30 premières secondes peut-être, c'est pas que ça a bidé, mais je passais premier, fallait chauffer un peu la salle, ça a démarré un peu mollement. Après, les 30 premières secondes, j'ai commencé à balancer mes meilleurs missiles et là ça a démarré, ça a pris, ça s'est très très bien passé, j'ai passé un excellent moment, 10 minutes super sur scène, mais surtout, donc voilà, c'était une belle soirée, on était 7 humoristes, j'en connaissais une dans l'équipe, les autres je les connaissais pas trop, donc c'était sympa, en plus j'ai rencontré des nouvelles têtes, je suis passé premier, la soirée réussi. J'ai été marrant. Croyez-le. J'ai été marrant. Et surtout, au-delà de ça, vous savez que moi, j'ai pas de problème. D'ailleurs, ça se voit avec ma carrière, à dire quand les choses sont de la merde. Et j'en paye le prix. Mais quand les choses sont bonnes, je le dis aussi. Et pour moi, du coup, ça a plus de valeur, puisque au moins, je suis pas hypocrite. Et là, quel plaisir, quel accueil on a eu de la part de l'équipe. Merci encore à l'équipe du festival Mauve de Rire. On a été accueillis, mais comme des rois. Alors, je ne dis pas qu'il faut nous traiter forcément comme des rois, en fait, nous les artistes. Mais déjà, juste avec un minimum de respect. Un minimum de respect. Et là, c'était plus que ça. On nous a accueillis, on nous a offert à bouffer tout de suite dès qu'on est arrivé. On nous a payé la nuit d'hôtel dans un bon hôtel avec le petit déjeuner de qualité qui était inclus. On avait droit à ce qu'on voulait globalement. Enfin, après, ce qu'on voulait, je veux dire, si on avait soif, envie de grignoter un truc, ils nous fournissaient de quoi manger, de quoi boire. Enfin, après, sans exagération, on n'était pas. Genre, il y avait de l'eau, du coca, des jus de fruits et des fruits, quelques snacks. Voilà. Après, un bon repas. Non, mais. Pas non plus des choses folles, mais je veux dire des choses correctes. Mais en tout cas, il y avait quoi. Et c'était prévu pour. Il y avait ce qu'il fallait, on était confortablement accueillis. Les gens d'une gentillesse, les gens de l'organisation, d'une gentillesse et d'une efficacité, mais incroyable. C'était trop, trop bien. Ils nous ont accompagnés, c'est simple, hein. On est arrivés, ils nous ont accompagnés de l'arrivée au départ. Ils ne nous ont pas lâchés. Toujours, même en repartant, ils nous avaient préparé un petit sachet avec une petite bouteille d'eau, quelques fruits et quelques trucs à grignoter pour le trajet du retour, tu vois. Juste un petit snack bag, quoi. Trop, trop gentil. Des gens, mais adorables. Merci le Festival Mauve de Rire. Déjà, l'accueil était génial. J'ai passé une soirée magique. Ce qui était cool en plus, c'est que j'ai, comme c'est dans près de ma région d'origine, j'ai un pote de fac Benji, qui est venu voir le spectacle, qui est un pote que je vois plus trop maintenant, mais avec qui on a partagé quelques années sur les bancs de la fac. Et comment c'était cool quoi, de le voir. On a échangé, voilà, on s'est partagé quelques nouvelles. On s'était revus déjà il n'y a pas très longtemps, mais c'est très occasionnel. Donc c'est super cool de pouvoir reconnecter un peu aussi avec, avec des gens comme lui. Enfin, ça m'a fait plaisir qu'il soit venu. Ma famille avait prévu de venir me voir, sauf que ça a été sold out. En 2 secondes, il n'y avait plus de place. Donc ils n'ont pas pu prendre leur place. Alors après, peut-être que j'aurais pu essayer de négocier pour obtenir une place, mais ça aurait... C'était compliqué, je me serais pris la tête un tout petit peu. Donc tant pis pour eux. Bon, en tout cas, c'était cool. J'ai vraiment passé une soirée incroyable sur ce festival. J'espère que donc, le 16... donc, j'ai joué 10 minutes. Le 16 novembre à Soyaux, je vais jouer une demi-heure. Donc c'est très différent. Et honnêtement, je pense qu'il y a un petit peu d'enjeu de me faire remarquer. J'espère que je vais pouvoir me faire un peu remarquer. Je ne me suis pas fait remarquer à Mauve de Rire, pas tant que ça, parce que franchement, j'y suis allé aussi un peu comme un connard. J'ai commencé, donc je vous ai dit, les 20-30 premières secondes étaient un peu casse-gueule, parce que j'ai voulu tester des blagues. Normalement, tu fais passer un festival, mais en fait, moi, comme je joue jamais, j'ai plus d'endroit vraiment où tester des blagues, et donc j'ai testé un peu au début. Alors, en fait, elles ont un peu marché ces blagues, hein, ces tests, et j'ai compris le potentiel, il y a du potentiel. Donc c'était pas non plus des blagues où je savais pas du tout comment ça allait marcher. Je savais que ça pouvait fonctionner, mais je les avais jamais testées. Donc ça, c'était casse-gueule. Là, les 30 minutes que je vais jouer à Soyaux, faut que ce soit un sans faute. Faut pas qu'il y ait de test. Faut que ce soit carré, que ça rigole du début à la fin. Faut que je sois méga efficace. Je me mets une petite pression parce que je pense que c'est ce genre de festival, parce que je vais jouer avec d'autres personnes qui ont un peu de niveau et qui sont un peu installées dans le paysage du stand-up. Et j'aimerais bien essayer de graviter un peu avec ces personnes-là pour essayer de gravir quelques échelons. Hein ? Éventuellement faire une première partie. Voilà. Essayer de gagner des points un peu comme ça. J'aimerais bien faire ça. Et pour ça, il va falloir que ça cartonne à Soyaux. Mais en tout cas, ça a marché à Mauve. Hein. Mais il y a eu des mecs ils étaient, et des filles hein, qui étaient beaucoup plus forts que moi. Il y en a un notamment, celui qui m'a marqué, c'est celui qui faisait la voix du Père Noël. Une voix il avait une voix incroyable. Il nous faisait un Père Noël. Mouah. C'était, on a vu que d'une chose, c'était de retomber en enfance pour lui sauter sur les genoux. Quand on l'entend parler, c'est terrible. Si vous voyez cette magnifique vidéo, oignon. Quoi ? Je sais pas de quoi tu parles, Gaka. J'ai pas suivi la vidéo. Mais on verra. Ok, bah voilà, écoutez, je vous ai raconté un petit peu toute ma life depuis 2 semaines. J'ai écrit des blagues. Hein. J'ai écrit des blagues. C'est vrai que le podcast, tu remerciais Mauve de Rire. Ah oui, si vous voyez cette magnifique vidéo, ouais. Oui, effectivement, Mauve de Rire, si vous me regardez. Et oignon tes parents. Ah oui. Merci pour la traduction, Gaka, de tes propos. Ouais, bon, c'est pas grave, mes parents ils m'ont déjà vu. Tu sais, quand il y a toute ma famille qui sont venus me voir en spectacle, ils m'ont vu, c'est bon. C'est bon, la case est cochée. Et oui, Mauve, si vous me regardez. Je sais pas si quelqu'un regarde ça. Le podcast, il est un peu. Il patauge un peu en ce moment. J'ai encore des vues, j'ai encore des auditeurs. Alors en live. En général, j'ai l'équipe de solide. Là, donc là, c'est Axel et Gaka ce soir. Mais c'est vrai que j'ai la petite équipe de solide en live. Il n'y a pas énormément. Mais j'aime bien, ça me fait plaisir aussi. En différé, je sais qu'il y a des écoutes, puisque je vois les stats, j'ai des chiffres. Mais en termes d'écoute, ça stagne un petit peu. Ça a arrêté un peu de monter. Ça montait, hein. C'est monté. Ça arrête un petit peu de monter. Je sais aussi pourquoi, hein. C'est que le contenu est un peu moins régulier, un peu moins de qualité peut-être. Alors de qualité, je pense que c'est surtout qu'il y a moins de stand-up. J'ai moins de choses à raconter. Je fais moins de chroniques. Je fais moins d'exercices de blagues. Je fais moins de débriefing de passage sur scène parce que j'en fais moins. N'oubliez pas que c'est vraiment parce que je vise l'objectif HDR. Quand l'HDR sera validé, donc début 2025, on y est presque. Hein. Vous avez vu, c'est du long terme. Moi j'aimerais bien peut-être, si je peux avoir l'ambition, l'orgueil, j'aime pas être orgueilleux, mais si je peux avoir un petit peu l'orgueil de transmettre quelque chose dans ce podcast, c'est de vous montrer comment, c'est pas je m'acharne, mais c'est comment je fais les choses petit à petit, sur le long terme, une tâche après l'autre. Et des fois, oui, ça stagne un peu, ça prend du temps. Mais sur le long terme, ça paye. Ça paye. Et mais j'y crois. J'y crois à ça. Donc, petit à petit, j'arrive vers l'HDR. Et quand l'HDR sera obtenu, je vais remettre en place une stratégie stand-up beaucoup plus agressive. Et j'ai très hâte, même. Je dois avouer que je sais que j'avais plein d'idées, j'avais dit pour le podcast, etc., plein de trucs que j'ai envie de faire. C'est compliqué de le faire avec l'HDR en même temps. Vraiment, j'ai essayé et en fait, il y a un moment, on ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je veux tout faire tout seul. Donc, je vais faire quelque chose, plusieurs choses tout seul, mais pas tout. J'ai écouté le podcast de Stand Up France et ils insistent sur ça. Et je pense qu'ils ont raison, je pense que Briac, il a raison, où il raconte que c'est important de s'entourer de gens, de réussir à déléguer, de confier certaines tâches à d'autres, de faire à plusieurs, que c'est que à plusieurs qu'on peut réussir à s'élever. Et je veux y croire à ça. J'aimerais bien réussir à adhérer à ça pour voir comment ça peut se passer pour moi, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à accrocher avec, je sais pas comment dire, à travailler avec les gens, à m'associer avec des gens, ou même à confier certaines choses. J'ai énormément de mal avec ça. À connecter parfois aussi avec les gens, c'est difficile. Et c'est difficile psychologiquement, hein, pour moi. C'est peut-être le dernier verrou. Parce que je pense que côté lâcher prise, côté rien à foutre, j'ai commencé à faire péter ce verrou-là. Mais je pense que le dernier verrou qui me reste à briser pour être le stand-upper que je veux être, c'est de réussir à casser ce verrou de la solitude, de tout faire tout seul, et de réussir à m'ouvrir un peu plus vers les autres, à connecter un peu avec les autres. C'est fou, hein. J'ai énormément de mal avec ça. Pour moi, c'est le dernier verrou qui me reste à péter, quoi, pour sortir de ma coquille et évoluer. Une fois ce verrou cassé, hâte de voir le bankai qui en découlera. Ah, en plus, tu me cites du Bleach, Axel. Parfait, j'adore. J'adore la comparaison avec le bankai. J'adore la comparaison avec Ichigo, avec Bleach. Ça me parle beaucoup, moi. Parce que je suis très Bleach. Je suis très Bleach. J'ai adoré Bleach à une époque. Donc, ouais. Axel, merci pour cette comparaison. Parce que tu vois, bon, tu le dis peut-être comme ça, mais moi, ça m'interpelle. Je vais faire un peu d'introspection. Essayer de comprendre à l'intérieur de moi qu'est-ce qui m'empêche de le casser, ce verrou. Essayez-vous de casser vos verrous, hein. Essayez un petit peu de... Bah, attention, certains verrous sont là pour nous protéger. Pas prendre trop de risques non plus. Mais parfois, on se censure. Parfois, on s'interdit. Ou on... C'est pas qu'on s'interdit, c'est que on s'empêche ou on recule. On a peur de certaines choses. En tout cas, on prend de la distance avec certaines choses pour des raisons pas toujours les bonnes, je pense. Moi, je pense, par exemple, si j'ai du mal à connecter aux autres, ouais, on se limite, ouais, plutôt que se censurer. On se limite, ouais. Et je pense que c'est de la peur. Enfin, tu vois, moi, je parle pour moi. Hein. Moi, je pense qu'il y a une, il y a différentes peurs. Il y a la peur que les choses, si je les confie à quelqu'un d'autre, elles soient pas faites comme je le veux. Il y a la peur de passer pour quelqu'un d'incompétent si je me décharge de tâches vers quelqu'un d'autre ou si je connais. J'ai la peur que les autres me déçoivent. Là, j'ai la peur de m'ouvrir et qu'on me fasse du mal. Voilà. Il y a différentes peurs, hein, qui font qu'on a du mal un petit peu à... Enfin, que pour moi, je pense. Hein, je parle un petit peu, je brainstorm plus que j'ai vraiment mis le doigt sur les choses. Hein, j'y ai déjà réfléchi un petit peu, j'ai essayé de comprendre, mais parfois, je me demande, est-ce que c'est pas juste de la flemme? Est-ce que c'est pas juste... c'est trop compliqué aussi, ça me prend du temps, ça prend du temps d'échanger avec les autres, de l'énergie. C'est plus simple, peut-être moins fatigant parfois de juste rester dans sa propre tête plutôt que de devoir s'adapter aux façons de faire des autres. C'est pas exactement de la peur à cet endroit. Donc voilà, j'ai déjà réfléchi, j'essaie de trouver, de comprendre. Mais comme tu dis, Axel, putain, j'adore, il y a un bancal qui demande que à sortir. C'est bien les comparaisons avec les shonen. On est en plein là-dedans avec Inoxtag qui monte son Everest, moi qui passe mon HDR. Inoxtag, si tu me regardes, toi et moi, on est les mêmes. Toi et moi, on est les mêmes, Inox. Esprit shonen, c'est bien. Ok, merci Rosago. Rosago, n'importe quoi, il est même pas là. J'allais dire fuck Rosago. Non, c'est pas très sympa. Ne clipez pas ça. Non, on le verra peut-être une autre fois. Non, Rosago, je pense à toi. Un gros ciao. Non, j'allais dire merci Gaka et Axel d'avoir été là ce soir pour ce podcast. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait un... c'est déjà clippé. Axel, il va me défoncer, il va me détester. Il va me détester. Il demande qu'à être édité. Ouais, bah après, je peux toujours effectivement arriver dessus. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à tous ceux qui écoutent ce podcast aussi en différé. Comme je disais, il y a encore du monde. Hein. Il y a encore du monde qui l'écoute. Ne croyez pas. Ne croyez pas. N'hésitez pas, ceux qui écoutent, à liker, commenter, partager. Parlez-en autour de vous à l'IUT. Très bien. Faites grimper un peu les chiffres. Lâchez des abonnements, vous savez, juste un petit clic qui ne coûte rien. Et comme ça, moi, ça me permet de passer la barre des 80, 90, 100 abonnés. Ce serait beau, là, je suis à 74 abonnés. Ce serait beau de passer la barre des 100 sur Twitch. Après, il y a d'autres followers sur les autres plateformes de podcast. Sur YouTube, ça ne marche pas trop. Je ne sais pas si je dois me faire chier à continuer, mais... On ne sait jamais. Allez voir. C'est quoi ? Lancez juste la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, likez. Et comme ça, ça me fait des, ça me fait monter les stats un petit peu. Ça peut peut-être me faire mettre en avant. J'y crois pas beaucoup. Mais tant que j'en ferai pas plus de stand-up, je pense pas que le podcast il puisse vraiment, vraiment décoller. Mais en tout cas, pour les fidèles qui me suivent, vous avez vu, je lâche rien. Vous aussi, lâchez rien dans ce que vous faites. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit épisode où je vous parlerai sûrement de Skull. Ça vous va ? Allez, bonne nuit tout le monde. On peut se coucher. Ciao, bye bye, gros bisous.